Des vies françaises à présent. Cette semaine, c'est une rencontre avec Michel. Michel, c'est un homme qui a subi l'inceste et autres viols. Michel qui, malgré tout, a réussi à faire de cette désolation quelque chose de positif. Charlotte Perry l'a rencontré.
C'était presque sans doute devenu quelque chose de, entre guillemets, normal.
Michel, épisode 1.
Comme il fallait pas parler, il fallait rien montrer. Donc faut paraître le plus normal possible.
Trop de silence.
Je m'appelle Michel, j'ai 66 ans. Mon père était comptable et ma mère était femme au foyer. C'était un milieu familial très conservateur, je dirais. Mon père était très, très catho et aussi relativement brutal quand ça lui prenait. C'est aussi une époque où on n'éduquait pas les enfants, on les dressait. Et puis, mon père, quand il était jeune, s'était plaint d'attouchements de la part de son frère, d'un de ses frères. Et moi, j'ai subi des attouchements par son fils, qui était mon cousin. Donc, ouais. Enfin, plus exactement, c'était pas des attouchements, c'était des viols à l'époque. Ça a commencé quand j'avais 3 ans. Lui était nettement plus âgé que moi. Il devait avoir 14 ans quand ça a commencé, quoi. Le mot que je mettrais là-dessus, c'est de l'effroi. Mais c'est des choses qui étaient sans doute trop violentes pour être gardées en mémoire immédiate, quoi. C'est quelque chose que j'ai refoulé à l'époque. Mais aussi, je crois que ça laisse des traces. Ça peut donner l'impression à des prédateurs suivants que c'est possible. Parce que j'ai eu d'autres événements par la suite. Vers l'âge de 10 ans, c'était la confirmation. Et donc, il y a du catéchisme. Et donc, il y a un prêtre qui nous faisait ce catéchisme. Et il en a profité pour avoir des attouchements sexuels sur moi. Donc, ça a été relativement court, mais...
Ça s'est à nouveau reproduit.
Ça s'est reproduit, oui. Et ensuite, j'ai été dans une école catholique. Et là, un des membres de la direction de l'école m'a violé pendant 2 années scolaires, à 12 ans et à 13 ans. Et ben, j'ai rien dit.
Pourquoi vous avez rien dit?
D'abord, ce qu'on aurait à dire est indicible. On n'a pas les mots pour ça. Et puis on ne serait pas entendu, et de toute façon il faut se taire. Ce qui plaisait à mon père, c'est qu'on se taise. Par exemple, à table, il ne fallait pas dire un mot. Il n'y a que lui qui avait le droit de parler, en quelque sorte. Donc, on ne parle pas. Et puis, en plus, j'avais été formaté pour obéir aux adultes. Un adulte dans l'école, c'est forcément quelqu'un qui a raison. Donc, non, j'ai rien dit. C'était trop dérangeant, trop blessant, trop... Et j'ai préféré me taire.
Ça se passait régulièrement
ou... Oui. Ouais. Oui, pendant 2 années scolaires, c'était assez régulier, oui. À un moment donné, mes parents se sont doutés de quelque chose, parce que ce vieux monsieur qui s'était présenté comme quelqu'un qui me voulait du bien, quoi, qui voulait me protéger, qui voulait me prendre sous son aile. Et mes parents l'ont rencontré et se sont laissés... convaincre que tout allait bien. C'est plus facile de ne pas voir. C'est beaucoup plus confortable. Et par la suite, j'ai fait des études qui ont duré très longtemps. Un petit peu comme pour dire... je mets tout ça de côté. Et pour qu'on ne remarque rien, je vais avoir la réussite la plus grande possible. De manière à ce que ce soit ça qui apparaisse et pas le côté noir qui avait à côté. C'est comme ça que j'ai fait des études très longues. J'ai été jusqu'à un doctorat. C'est le plus long que je pouvais faire. Et puis après, ben, j'ai fini par faire la recherche à l'université pendant la thèse. J'ai publié quelques articles dans des revues internationales. Enfin, bref, tout allait bien, quoi. Voilà. Mais j'avais toujours quelque chose de cassé au fond de moi. L'épisode de 12-13 ans était présent en moi tout le temps. Chaque jour, j'y pensais. Mais sous forme d'images, sous forme de sensations, d'impressions, que je cherchais à chasser, mais sans vraiment y parvenir. Et donc c'était là, tout le temps. Mais sans jamais le dire à personne. Et donc pendant des dizaines d'années, j'ai fait comme si tout allait bien. Je me suis marié, j'ai pu construire quelque chose qui avait l'apparence de quelque chose de normal. Et je suis resté dans le silence sur tous ces événements-là jusqu'à l'âge de 48 ans. Et c'est à ce moment-là que tout est remonté. Tout ce qui s'était passé à 12-13 ans s'est remonté. J'ai commencé à vouloir mettre des mots dessus. Et une des premières personnes à qui j'en ai parlé, c'était ma femme, qui sur le coup a voulu m'aider, a voulu... Et puis, assez rapidement, les souvenirs de l'âge de 3 ans sont remontés aussi. Et un an après, elle demandait le divorce. Ça a été sans doute trop dur pour elle. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu ne m'as pas fait confiance. » Et dans le même temps, elle disait « Depuis que tu as parlé, c'est la merde, quoi. Ça ne va plus. » Donc, c'était à la fois « Tu aurais dû parler plus tôt » et à la fois « Tu aurais mieux fait te taire. » Et donc, elle a préféré mettre de la distance plutôt que de supporter tout ça, quoi.
Pourquoi, à ce moment-là, vous avez décidé de le dire, finalement, à 48 ans ?
Parce que j'ai plus le choix. J'étais dans un tel mal-être. Il fallait que ça sorte. Et la première fois que je lui en ai parlé... presque comme si je décrivais une scène extérieure. J'étais dissocié. Pour pouvoir mettre des mots là-dessus, je me suis coupé de toutes mes émotions. Donc ça a dû paraître... Après coup, je me suis dit que ça a dû paraître très bizarre. Donc c'est la stratégie que j'ai inconsciemment trouvée pour pouvoir dire des choses. Pas les bonnes choses, sans doute, mais dire des choses quand même.
Et après, du coup, quand vous vous êtes séparé de votre femme, vous avez vécu ça comment ?
Un peu comme s'il y avait une trahison. Dans le sens que je parle, c'est ça qui fait que je me sens rejeté. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Pour survivre, il fallait parler. Ouais, là, j'ai plus le choix, ouais.
Par la suite, vous savez si ces hommes ont été poursuivis par la justice ?
Aucune idée. J'imagine que non.
Est-ce que vous-même, vous avez jamais entamé une action en justice ?
Jamais.
Comment ça s'était terminé avec le cousin ? Comment il avait arrêté de finalement vous violer ?
On n'allait plus chez eux parce qu'ils avaient déménagé. Ah. Donc ça s'est arrêté. Il n'y a qu'une fois... Quand moi j'avais 7 ans, il a voulu recommencer, mais il se trouve que mes parents voulaient faire une photo de famille. Et donc la mère de ce jeune adulte est venue, nous a surpris, et ça s'est arrêté donc avant qu'il ait commencé. Et donc on est allé faire la photo. Et voilà. Mais sa mère, je pense, avait compris, mais n'a rien dit. Et puis je pense qu'il y avait quelque chose d'au moins incestuel dans cette famille. Lui et son père et peut-être sa mère. C'est souvent le cas hein, dans les familles. Il peut y avoir des comportements comme ça qui se reproduisent de génération en génération. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Bon. Ça vous a pas fait peur de savoir tout ça ?
De savoir si moi-même j'étais porteur de cet art. Moi, je me suis posé la question, oui. Et j'ai fini par y répondre en thérapie en disant que non. J'étais peut-être de cette génération qui allait interrompre ce mouvement-là, oui.
En ayant parlé aussi
Oui, en ayant fait autre chose. Je me sentais exclu, je vais aller voir les exclus. Et parmi les exclus, il y a les gens de la rue. Et parmi les exclus, il y a aussi des gens qui sont détenus.
Voilà, et la suite de cette rencontre avec Michel, ce sera... La semaine prochaine, c'était des vies françaises, portrait sonore signé Charlotte Perry.